néolithique, si vous voulez, au néolithique, quand les gens ont commencé à travailler la terre ou à devenir bergers, eh bien, il y a eu entre ces deux formes de dans cette société des contradictions entre celui qui cultivait les champs et celui qui faisait de l'élevage, et des disputes entre ces deux sortes de personnes. Je pense en particulier à ce qui est dans la Bible, l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est comment dirais-je, une dispute entre un éleveur, un berger et un agriculteur. Et la guerre a commencé pour ça, pour des questions de terre, pour des questions économiques et autres. Voilà. Et ces populations-là du Moyen-Orient, puisque le néolithique est né en Orient, dans le croissant fertile, c'est-à-dire c'est l'Irak et l'Iran, voilà. Et vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé depuis ce moment-là. La guerre est née là-bas. Et ces peuples-là sont venus vers chez nous, en particulier ici dans la région toulousaine, et ils vont créer les premiers villages, ils vont créer les premières cultures et la première économie qui va se répandre dans toute la région. Ils vont se sédentariser. Voilà quelques pointes de flèches en silex qui montrent que la guerre existait déjà ici chez nous. Moi, je les ai trouvées du côté de Villemur. C'est des pointes de flèches qui ont servi à une guerre, certainement. On en trouve un peu partout, ici dans la région. Et voilà comment ils vivaient. Bon. Autre objet que je voulais vous apporter, je l'ai oublié, c'est le pointe de lance de l'âge du bronze, qui a 3000 ans, que j'ai trouvé à Villemur aussi. Villemur se trouve sur une. Moi, je suis originaire de Villemur, sur Tarn. Et la rivière faisait frontière entre différents territoires depuis la protohistoire, pratiquement jusqu'à nos jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une frontière entre trois départements. Et c'était une frontière aussi entre des nations, nation d'Aquitaine, la Celtique, la Tectosagie, etc., à la protohistoire. Et ensuite, à l'époque romaine, pareil, la division des provinces montre que les frontières passaient à Villemur. Et donc, il y avait un passage important et certainement des disputes. Il y avait un péage, certainement. Et à cet endroit-là, on trouve des tas d'objets au fond de l'eau de toutes les époques qui montrent que la guerre a existé dans tout ce coin-là. Voilà par exemple une hache de guerre mérovingienne. Ça, c'est l'époque où Clovis avait vaincu les Visigoths, dont nous fêtons cette année le 16e centenaire d'ailleurs, hein, du royaume Visigoth de Toulouse. Il y aura des animations pendant 2 ans jusqu'en 1920 à ce sujet-là. Et donc, Clovis, venant de Bordeaux, ensuite l'année suivante, en 507, est passé certainement par Villemur. Et au fond de l'eau, on a trouvé des haches de cette époque-là, des haches mérovingiennes comme celle-ci. On en a trouvé 7 en France, dont 4 à Villemur, ce qui est, vous voyez, qui en dit long déjà sur l'importance de ce passage. Alors, je fais un grand saut maintenant pour arriver rapidement, puisqu'on m'a donné que 50 minutes, ça va être très court et difficile à tenir. Bon, je vais essayer. À l'automne 1913, vous ne savez peut-être pas, mais dans la région toulousaine, il y a eu des grandes manœuvres nationales. Et en présence d'invités étrangers, dont les Allemands, qui étaient là, dont le chef d'état-major allemand, qui se trouvait. Vous voyez cette carte postale où on voit les futurs généraux qui ont fait massacrer pas mal de monde dès 1914, en particulier Joffre, septembre 14, que vous voyez ici au centre, qui dirigeait toutes ces grandes manœuvres à ce moment-là. Et qui était comment dirais-je, le plus en train à préparer cette guerre et à pousser le gouvernement de l'époque à engager une guerre contre l'Allemagne en préventive. Bon. Et ce qui est curieux, c'est que tous ces gens-là se trouvaient ici à Toulouse. Et voilà, par exemple, c'est l'époque où l'aviation va pour la première fois entrer dans une guerre. On voit les avions ici à Saint-Clair, dans le Gers. Le dirigeable aussi. Voilà un camp militaire à Toulouse qui abritait les gens qui allaient participer à ces grandes manœuvres nationales. C'est quelques mois seulement avant le début de la guerre. Hein, quelques mois seulement. Il y avait la plupart des états-majors des grands pays d'Europe qui se trouvaient ici à Toulouse. Hein. Et voilà. Et alors, il s'est passé un événement extraordinaire, c'est que le chef de la délégation allemande, qui s'appelait Detlev von Winterfeld, va être presque tué à Grisolles. Dans le Tarn-et-Garonne, tout près d'ici, par conséquent. Il est tombé dans un fossé, la voiture s'est renversée, il est tombé dessus et tout, il a fait être tué. Imaginez le clash diplomatique que ça aurait fait s'il était mort. Mais heureusement pour le gouvernement français, il a été amené dans une maison que vous voyez là, c'est cette carte postale, et il a été soigné par le docteur Paul Voisvenel, que certains d'entre vous ont certainement connu, quand voilà, il écrivait dans la dépêche et tout, vous voyez. Et à la radio aussi, Pavard Venel, il était à l'époque jeune médecin militaire dans l'état-major de Joffre. Et donc c'est lui qui a sauvé le chef d'état-major allemand avec un ami chirurgien. Et ce chef d'état-major est resté pendant un an, enfin, presque un an, jusqu'en juillet 14, chez l'habitant, parce qu'on ne peut pas le déplacer. Et c'était un cousin du Kaiser, quand même, un cousin de l'empereur d'Allemagne. Donc c'était un personnage très important, imaginez. Et le Paul Voisvenel a été décoré de la Légion d'honneur pour avoir sauvé le chef d'état-major allemand et de la Croix de fer par l'empereur d'Allemagne pour les mêmes raisons. Et ces décorations, vous pouvez les voir, elles sont au musée de Vieux-Toulouse dans une vitrine d'ailleurs. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de militaires, des militaires de tous les pays d'Europe qui allaient quelques mois après envoyer toute la jeunesse européenne dans les tranchées et à se faire massacrer. Mais là, ils étaient bien contents, tous en cœur, de préparer cette guerre ici, dans notre région, ici à Toulouse. Et on retrouve von Finderfeld d'ailleurs, en 1918, le 11 novembre, à Rotonde, pour la signature de l'armistice. Vous voyez Foch debout, à la table là. Et derrière, vous voyez la délégation allemande qui vient signer l'armistice le 11 novembre 14, 18, pardon. Et vous voyez le casque à pointe qui est là entre les deux, et bien c'est von Winterfeld. Vous voyez, on le retrouve là, à la fin de la guerre, comme général de l'armée allemande, donc qui signait donc l'armistice. Voilà un épisode important que les gens d'ici ne connaissent pas. C'est très important de dire que aussi qu'à la fin de ces manœuvres, il y a eu un grand banquet offert par le président de la République française, qui était à l'époque, qui stationnait à Grenade d'ailleurs, il avait son wagon réservé et tout, et il a offert un banquet et il a eu le culot de lancer une souscription auprès de la population toulousaine pour payer les frais du banquet. Voyez. Heureusement, le maire de Toulouse, qui était Jean Rieu, a refusé, Jean Rieu socialiste, a refusé de cette mascarade, il a refusé de payer. Mais le conseil général, lui, s'est empressé de sortir l'argent de la poche des gens, pour payer ce banquet offert à tous les gens qui avaient participé à ces grandes manœuvres, hein, sachant que quelques mois après, on allait massacrer pratiquement toute l'Europe. 31 juillet 14, vous avez aussi, c'est Jaurès qui est assassiné. C'était le dernier obstacle à cette guerre. Hein. Nous allons le revoir tout à l'heure. Ça, j'ai donné quelques trames, une trame. 2 août 14, donc la guerre générale éclate en Europe. C'était une guerre européenne au départ. Ce n'est pas une guerre mondiale. Hein. D'ailleurs, dans toutes les cartes postales que nous avons jusqu'en 1917 au moins, il est écrit en gros guerre européenne, pas guerre mondiale. C'est venu mondial après qu'en Amérique, ça n'est mêlé. Alors, comment on est arrivé à ce grand conflit? Et pour cela, il faut remonter un peu plus loin, 30 ans auparavant. En 1800, 30 ans, même 40 ans auparavant, 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. L'Allemagne n'existait pas encore à l'époque. Il y avait des États germaniques, la Bavière, la Prusse, etc., la Bade-Wurtemberg, et Napoléon III, qui voulait s'emparer de la Belgique, de la Hollande et d'autres territoires, devant le refus de la Prusse d'accepter ce troc qu'il avait proposé. Bon, il s'est dit, bon, je vais déclarer la guerre à la Prusse, comme je suis le plus fort, je vais la gagner, et donc je prendrai ce que je voudrai sur les deux rives du Rhin. Manque de peau pour lui et pour tout le monde, pour nous aussi. Eh bien, de quelques semaines, il a perdu la guerre. Il capitule à Sedan dès le mois de septembre. On le voit ici à côté de Bismarck. Au-dessous, quand il remet son épée au roi de Prusse Guillaume. Et 18 janvier 71, donc quelques mois après, les Prussiens et tous les États allemands, c'était des États vraiment, qui se réunissent à Versailles, dans la Galerie des Glaces, pour faire l'unité allemande. Bismarck n'attendait que ça d'ailleurs, cette victoire. Et là, les États allemands choisissent un empereur, ça a été le roi de Prusse, Guillaume. Les autres États, comme la Bavière, le Württemberg, la Saxe et d'autres, restent des États autonomes. Nous sommes aujourd'hui, enfin depuis longtemps, pratiquement aucun pouvoir. Même Carole Delga ne peut rien faire sans le préfet. Le préfet, c'est qui? C'est le gouvernement, c'est Paris. Donc elle peut faire tout ce qu'elle dire et faire ce qu'elle veut. Si le préfet n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Là, c'était différent. En Allemagne, chacun avait son gouvernement, son parlement, etc. Comme c'est aujourd'hui en Allemagne fédérale, en République, c'est un peu le même système. Voilà. Et donc, ces États choisissent le roi de Prusse comme empereur d'Allemagne. Et donc, l'Empire est proclamé. Pendant ce temps, il y a des révolutions qui éclatent un peu partout dans notre région, enfin, je veux dire en Occitanie. La première commune va naître le 8 août, déjà, avant la défaite, déjà, avant septembre. Donc, le 8 août, déjà, la première commune révolutionnaire va naître à Marseille. Et le 4 septembre, c'est Marseille qui proclame la République, dès le matin. Paris hésite. Il faut savoir quand même que le Parlement était composé surtout de monarchistes et d'impérialistes. Donc la République, ça ne les intéressait pas trop. Et il a fallu que la foule, où l'on voit sur cette image, fonce vers le Palais Bourbon pour que, dans la soirée ou dans la nuit, eh bien, Paris proclame aussi la République, une République monarchiste, en attendant un roi, comme il était dit dans les textes. La vraie République n'est née que beaucoup plus tard. Donc voilà, la République est proclamée un peu partout. C'est là, une petite anecdote, là. Moi je suis de Villemur et mon aïeul grand-père qui était un révolutionnaire dans l'âme, je sais pas, c'est un peu l'esprit de la famille chez nous, depuis l'époque cathare d'ailleurs. Et donc mon grand-père et d'autres amis de Bondéhousse et de Villemur, des villages aux alentours, sont arrivés à Villemur avec une hache et ils ont coupé les câbles du pont qui tombait à l'eau. Pourquoi? Parce que c'était un pont à péage. Et donc ils ont profité du 4 septembre de la proclamation de la République pour supprimer ce péage comment dirais-je, qui embêtait beaucoup de les gens qui avaient travaillé, qui traversaient le pont tous les jours. Il fallait qu'ils payent matin et soir. Et donc ils ont fichu le pont à l'eau et plus de péage, mais plus de pont non plus. Donc il a fallu traverser la rivière avec des bacs après ça. Et le pont a été reconstruit 4 ans après, mais ils ont rétabli le péage. 4 ans après. Voilà, une petite anecdote, entre autres, conséquences de cette proclamation de la République chez nous, à Villemur. Donc là, le problème, c'est que dans cette histoire-là, de la révolution des communes, c'est que si la commune est née à Marseille, Paris n'a pas suivi. Paris n'a proclamé la commune que, vous le voyez, le 18 mars 71. Vous voyez, presque 6 mois après. C'est ce qui, pour moi, a provoqué l'échec de cette commune de Paris. Ils ont trop attendu. Parce que pendant ce temps, le gouvernement de Thiers s'était réfugié à Versailles pour éviter d'être prisonnier de Paris, et qui était monarchiste. Donc, a pu constituer une armée, reconstituer une armée, et s'emparer de Paris quelques temps après. Vous voyez? Alors que il était possible de le faire dès le mois de septembre, et là, les choses auraient tourné certainement autrement. Mais enfin, voilà, 28 mai 71, dernière barricade, c'est rue Rampouneau à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est le 28 mai 71. L'armée versaillaise a massacré tous les derniers combattants. Ça a été l'échec total donc de cette révolution de la population parisienne, et avec des conséquences assez terribles un peu pour tout le monde. Donc, nous revenons aux négociations avec la Prusse, qui vient de naître. Le 10 mai 71 va être signé un traité à Francfort entre donc la France, le gouvernement de Versailles et l'Allemagne. Les conditions de ce traité, c'est que la France devait payer 5 milliards de francs or à l'Allemagne, qu'elle a payé rapidement d'ailleurs. Alors, contrairement à ce qui va se passer après avec le traité de Versailles, nous le verrons tout à l'heure. Hein, 5 milliards en francs or, qui paraissait énorme, et puis finalement qui a été vite, vite payé. Et en plus, l'Allemagne a récupéré des pays germaniques que Louis XIV avait pris à l'Allemagne, c'est-à-dire l'Alsace et, je ne dis pas la Lorraine, et la Moselle. Ce n'est pas la Lorraine, c'est qu'une partie de la Lorraine. Mais dans l'imagerie populaire et dans les chansons, on parle de l'Alsace et de la Lorraine, mais en fait, ce n'est qu'une partie. C'est-à-dire les pays qui sont germaniques, d'origine germanique, de langue germanique et de culture germanique. Et il faut savoir que l'Alsace et la Moselle ont bénéficié, comme les autres États allemands, d'une constitution et d'une espèce d'indépendance, de l'interdépendance en fait. Ils faisaient partie d'un État, ils ont constitué une espèce d'État dans l'Empire allemand, comme la Bavière et les autres. Donc avec un parlement, avec deux chambres, etc., etc. Ça, je veux dire, entre autres. Bon, nous arrivons après, alors, à la véritable République qui va être proclamée dans les années 70, 75, 78. C'est Jules Grévy, c'est ce qu'on appelait, que mon professeur d'histoire appelait la République des Jules, hein, à Montauban. Jules Ferry, Jules Grévy, Jules, etc., Simon et compagnie. Donc, c'est Jules Grévy qui est élu président de la République par le Congrès réuni à Versailles. Le 30 janvier 1979. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 15 jours après, eh bien, le 14 février, on choisit une hymne nationale pour la France. C'est un chant de guerre qui est choisi, c'est pas neutre. Nous sommes en 78, 79. C'est le chant de guerre de l'armée du Rhin, composé par Roger de Lisle, qu'on va appeler la Marseillaise, qui va devenir le chant donc national. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vous connaissez toutes ces paroles qui sont assez ignobles d'ailleurs, qu'a combattu Jean Jaurès. Voilà, qui sera choisi. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes à l'époque, donc juste après la guerre de 70, où va émerger deux nationalismes. Hein, un nationalisme colonial avec Jules Ferry, nous allons le voir, et l'autre avec Clemenceau, par rapport à l'Allemagne d'un côté et par rapport aux conquêtes coloniales de l'autre. Et c'est ce genre de guerre qui va faire marcher un peu les peuples pendant, ou le peuple pendant très longtemps, d'ailleurs pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le 28 juillet 1985, Jules Ferry va, au cours d'un débat à l'Assemblée sur la politique nationale, va faire un grand discours qui va décrire le pourquoi et la nécessité des conquêtes coloniales. Et quand on lit ce discours, qui est très long, je ne vais pas tout vous le lire, on en aurait pour la nuit, mais je vais vous lire juste quelques extraits, eh bien, cette politique-là, elle a été suivie pratiquement jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment les mêmes raisons. Alors, je vous en lis quelques extraits. Si la République ne peut se passer d'avoir une politique européenne, orientale ou méditerranéenne, il lui faut, pour des raisons analogues, une politique coloniale. La concurrence est de plus en plus ardente entre nations européennes, c'est ce qui va entraîner la guerre des 14 d'ailleurs, pour se disputer ces débouchés lointains, ces stations aux portes de la barbarie, qu'un instinct sûr indique à la vieille Europe comme les têtes de pont de la civilisation et les voies de l'avenir. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. C'est très important cette phrase. Pour les États riches, où les capitaux abondent et s'accumulent rapidement, le manufacturier est en voie de croissance continue, attirant à lui la partie sinon la plus nombreuse, du moins la plus éveillée et la plus remuante de la population qui vit du travail de ses bras, où la culture de la terre elle-même est condamnée pour se soutenir à s'industrialiser. L'exportation est un facteur essentiel de la prospérité publique et le champ d'emploi des capitaux, comme la demande du travail, se mesure à l'étendue du marché étranger. Et puis, messieurs, il dit aux députés, il n'y avait pas de femmes à l'époque, hein, il faut parler plus haut et plus vrai, il faut dire ouvertement qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Voilà toute la politique de coloniale, enfin, un extrait du discours de Jules Ferry à cette époque-là. Et il dit aussi, dans la suite, il dit, les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. C'est aussi pour notre marine que les colonies sont faites, et c'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie, c'est pour cela qu'il nous fallait Saïgon et la Cochinchine, c'est pour cela qu'il nous faut Madagascar, qui a été conquis d'ailleurs par un cousin de ma grand-mère, de Bondius, qui était Marius Cazeneuve. Certains peut-être en ont entendu parler. Il y a une salle qui lui est consacrée au musée de Vieux-Toulouse, qui a séduit la reine Ranavalo, moyennant contre les Anglais, qui voulaient Madagascar aussi. Et grâce à ces artifices-là, que la France s'est emparée un peu plus tard de Madagascar. Ce serait le sujet de conférence, mais ce serait très long à expliquer. Marius Cazeneuve, c'est un type extraordinaire. Vous avez. Comment? Non, 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 non. C'est Marius Cazeneuve. Bon, mais ça, ce serait trop long à expliquer. Je continue sur Jules Ferry. On ne peut pas proposer à la France un idéal politique conforme à celui de nations comme la libre Belgique et comme la Suisse républicaine. Il faut autre chose à la France. Elle ne peut pas être seulement un pays libre. Elle doit être aussi un grand pays, exerçant sur les destinées de l'Europe toute l'influence qui lui appartient. Elle doit répandre cette influence sur le monde et porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes. On en sait quelque chose aujourd'hui. Et son génie. Alors. Il faut savoir que dans cette politique coloniale de Jules Ferry, Eh bien, il ne faut pas oublier la politique de l'Allemagne à cette époque-là. Le chancelier allemand, donc Bismarck, a bien compris que s'il voulait faire de son nouvel État, qui venait de naître, cet empire, un pays, une grande puissance économique, il fallait une stabilité en Europe. Il ne fallait pas qu'il y ait d'autres guerres. Sinon, c'était risqué, quoi, bien sûr. Et donc, il a proposé, il va appuyer Jules Ferry, toutes les conquêtes coloniales, pour détourner la France d'une revanche éventuelle par rapport à l'Alsace et la Moselle. Et d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Il dit, je suis et je serai toujours prêt à appuyer et à seconder l'action de la politique française autant qu'elle ne tournera pas ses vues vers ses anciennes provinces d'Alsace. C'est très clair. C'est tout ça. Et donc, en effet, vous allez voir quelques effets. Vous allez voir que de cette époque-là, 1880 jusqu'à la guerre de 14, il va y avoir chaque année, des guerres un peu partout, en Europe, en Orient, dans tous les endroits qui se battent actuellement d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé. Je prends quelques exemples. Hein. En 1881, Bismarck soutient la France, donc en Tunisie, contre la Turquie, l'Italie, l'Angleterre. Au Congo, pareil. Et en Égypte, contre les Britanniques aussi. Bien sûr, les Anglais qui veulent s'implanter, qui s'implantent en Égypte, à ce moment-là, contre la France. Il appuie, Jules Ferry, aussi la conquête du Tonkin. Mais, retournement de situation, en 86, le ministère change, c'est plus Ferry. Clemenceau va imposer l'entrée au gouvernement d'un général, qui est le fameux général Boulanger, et qui va devenir ministre de la guerre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Clemenceau va dire, bon, mon nationalisme à moi, ce n'est pas celui de Jules Ferry, qui est un nationalisme de conquête coloniale, mais mon nationalisme à moi, il est ici à l'intérieur de l'Hexagone, et il est dirigé vers la ligne bleue des Vosges, c'est-à-dire vers l'Allemagne, vers la reconquête de l'Alsace et de la Moselle. Et nous avons ces deux nationalistes, jamais oublié ça, qui vont entrer en jeu et petit à petit conditionner les gens vers une revanche, surtout avec Clemenceau, par rapport à l'Allemagne. Donc voilà. En 87, déjà, la guerre a failli éclater. Et à ce moment-là, c'est là que Jaurès a fait un long article dans La Dépêche où il dit, attention, attention, le patriotisme tapageur, agressif, provocateur et fou, c'est celui qui crie à Berlin et qui mène les Prussiens à Paris. Parce que c'est ce qu'avait fait Napoléon III. Il dit, attention, nous ne recommençons pas les mêmes âneries. Sinon, on va dire, oui, on va tous à Berlin, mais c'est eux qui vont venir à Paris. Voilà ce que veut dire Jean Jaurès. Il explique très bien dans La Dépêche. Et en plus de ça, on va conditionner les Français avec ce que j'appelle une nouvelle religion, c'est la religion le culte de la patrie. En effet, voici un extrait d'une instruction de l'enseignement primaire du 30 décembre 1983 aux instituteurs. Nous devons nous sacrifier pour défendre la patrie. Le drapeau est le symbole de la patrie. Alors, cette patrie, on le trouve dans toutes les circulaires ministérielles de toute cette époque-là, jusqu'en 14, on le retrouve partout, partout. C'est par l'étude de l'histoire nationale que les maîtres arriveront à faire l'éducation de ce patriotisme. Et là, on pourrait en discuter toute la nuit. Et aux institutrices, parce que l'école n'était pas mixte encore à l'époque, hein, mesdames les institutrices, vous devez former des Françaises prêtes, enfin le jour venu, ils préparent tout, à confondre dans une même pensée ce culte, le drapeau, et cette religion, la patrie. Là, les choses sont claires. Vous voyez? Et je vous donne un extrait d'un cahier de la sœur de ma grand-mère, 1911, de mon village, où tout convergeait vers ça. L'enseignement de l'histoire, la géographie bien entendu, et aussi la poésie. Voici une poésie que j'ai trouvée sur un cahier de 1911 de ma grand-tante. France, c'est une poésie de Déroulède, de même. France, veux-tu mon sang? Il est à toi, ma France. S'il te faut ma souffrance, souffrir sera ma loi. S'il te faut ma mort, mort à moi. Et vive toi, ma France. Mais tout ce qu'on inculquait aux gens à cette époque-là, c'est terrible, quoi. Et on comprend que certains y aient cru. Ils n'y ont pas cru longtemps, mais enfin, ils y ont cru pendant un certain temps quand même. Alors, les deux personnages qui incarnent cette nouvelle religion, c'est Michelet et Lavisse. Michelet était mort à ce moment-là, mais il avait fait des émules, comme Lavisse qui a fait les premiers livres du manuel d'histoire qui ont duré jusque dans les années 1960, le petit Lavisse. Alors, Jules Michelet va écrire donc une histoire en 17 volumes, vers 1830, voilà où il dit « La France s'entourera de ses enfants et leur enseignera la France comme foi et religion. Enfant, tu n'oublieras jamais que ta mère est la France. Le Dieu des nations a parlé par la France. Vous voyez tout ce qu'on a inculqué aux gens à partir de ce moment-là. Et Lavis, qui fait son fameux bouquin « Histoire dite de France », et il dit aux instituteurs, si l'écolier ne devient pas un soldat qui aime son fusil, l'instituteur aura perdu son temps. C'est comme ça que mon arrière-grand-père, dans le village de Bondihoust, faisait la gymnastique, aidait l'instituteur pour faire la gymnastique, et il faisait marcher au pas cadencé, c'était un ordre du ministère, au pas cadencé les garçons dans la cour de l'école avec un fusil en bois sur l'épaule. Oui, les années 1880 et quelques. J'ai des photos d'ailleurs, on voit mon arrière-grand-père faire ça, quoi. D'où, alors, à ce moment-là qu'on a inventé le fameux mythe de la Gaule française dans les manuels scolaires. Nos ancêtres les Gaulois, grands blonds aux yeux bleus, etc. Ça n'existait pas avant. Ça a été inventé à ce moment-là pour faire croire que, n'est-ce pas, tout le monde, la France est gauloise, française, elle existe depuis toujours, elle existera toujours. C'est devenu une religion. Alors voilà ce qu'il y a sur les manuels scolaires de la Vice. Voici la France comme elle est, enfin, la Gaule plutôt, nos ancêtres les Gaulois, comment elle est dessinée. La Gaule de la Vice, c'est l'hexagone français d'aujourd'hui. C'est très marrant. Le mot Gaulle en gros, France au-dessus, France au-dessous, bien sûr, en noir, c'est l'hexagone. Et alors, vous avez des parties hachurées, en haut, c'est la Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. Ce sont des régions dont il faut s'emparer. Ça a été la politique de Napoléon III, et d'ailleurs depuis Louis XIV. Louis XIV a essayé, il a échoué, bon, Napoléon a essayé, il a échoué aussi. Mais c'est encore dans l'idée de la République de Jules Grévy, Ferry et compagnie. Vous voyez, on inculque ça aux enfants, ça, ce qui est assuré, c'est, ça doit revenir à la phrase. Vous voyez. Et ce qui est marrant là-dessus aussi, c'est que l'Alsace et la Moselle, qui ne sont plus françaises à ce moment-là, elles sont dans l'Empire allemand, eh bien, elles sont incluses en noir dans l'hexagone français, alors qu'elles ne sont plus françaises déjà à ce moment-là. Or, la véritable Gaule, d'après César, vous les avez au-dessous, hein, vous avez l'Aquitaine, les Aquitaines sont ancêtres des Basques et des Gascons, mais ça n'a rien à voir avec les Gaulois. Il y a la Celtique, qui sont d'après César les véritables Gaulois, celui qui aime César. Il dit, ils s'appellent Keltoi dans leur langue, Gaulois dans la nôtre, il dit, ces gens-là. Donc de la Garonne jusqu'à Paris, autrement dit, les Parisiens, c'est des... à partir de Paris plutôt, jusqu'à l'embouchure du Rhin, c'est des Belges. Autrement dit, les Parisiens, c'est peut-être des Belges, vous voyez. Je ne sais pas s'ils seraient contents qu'on leur dise ça, mais bon. Comment ? Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. Et après, alors, César ne parle pas de notre région ici, vous voyez, qui est en jaune, là. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était déjà romain avant sa naissance. Cette région était romaine depuis le second siècle avant Jésus-Christ. Toulouse a été romaine à ce moment-là. Ici aussi, on était romain. Donc, vous voyez. Ça n'a rien à voir, vous voyez, avec la Gaule telle qu'on nous l'a décrite, même encore quand nous étions jeunes, nous autres. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On a trompé les gens pour inculquer ce culte, n'est-ce pas, de... Voilà. Donc, province romaine. Bon, je passe vite, sinon on n'arrivera pas au bout. Alors, ces rivalités coloniales dont j'ai parlé avec Jules Ferry, et la montée en puissance donc du nationalisme et du militarisme en France, en Europe, en toute l'Europe, pas qu'en France, va amener des conflits de plus en plus importants. Et devant ces rivalités coloniales qu'il y avait entre les États d'Europe, surtout entre l'Angleterre et la France, hein, c'est pas tellement entre la France et l'Allemagne, c'était surtout entre l'Angleterre et la France, et entre l'Autriche et la Russie, c'était les deux grands pôles, qui vont amener cette guerre. Donc, il y a des États qui vont essayer de s'allier pour éviter d'être attaqués par d'autres. Et c'est ce qu'on appelle la triple alliance, avec une défense réciproque, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie d'abord, la triple alliance, donc ces trois États, qui seront rejoints bientôt par la Serbie et par la Roumanie. Et en même temps, la Russie, qui est en froid avec l'Autriche à cause des Balkans, va négocier un traité avec l'Allemagne. C'est assez marrant quand on voit ça, quand on voit ce qui s'est passé après. Quoi. Ouais. En juillet 1991, la Russie va essayer aussi de s'allier avec la France. Donc, elle accueille la flotte française qui va en Russie. Et ils vont rédiger d'ailleurs un traité secret entre la France et l'Allemagne, se prêtant main forte en cas de guerre européenne. Voilà. L'Italie, c'est assez marrant ça aussi, l'Italie qui fait partie de la Triple Alliance, va essayer de se rapprocher de la France, mais sans quitter la Triple Alliance. Vous voyez, je vais essayer de jouer sur les deux tableaux, quoi. Hein. Mais alors, les conflits vont se multiplier. En voici quelques-uns. En Orient, la Russie, qui redoute un démembrement de l'Empire ottoman, que vous voyez en vert, là-dessus, qui redoute aussi que les détroits soient pris par l'Angleterre et aussi par l'Italie. Donc la Russie va engager des conflits avec eux. En 97, c'est une guerre entre la Grèce et la Turquie pour s'emparer de la Crète. Ouais. En 98, chaque année, il y a un conflit. L'Angleterre empêche l'établissement de la France dans le Nil. C'est la fameuse affaire de Fashoda, dont on vous a parlé quand vous étiez à l'école, moi aussi, n'est-ce pas? Fashoda par rapport aux Anglais. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement entre la France et l'Allemagne, c'est surtout entre la France et l'Angleterre, pour pas mal de colonies. En 1902, la Russie essaie de s'emparer de la Mandchourie. Poutine n'était pas encore là, mais vous voyez que rien n'a bien changé. Les Russes vont s'opposer à l'alliance anglo-japonaise par rapport à l'Afghanistan, ça aussi c'est encore d'actualité, et par rapport au golfe Persique, voyez, nous sommes là en plein dedans actuellement. Hein. Les Russes essaient d'accéder à la Méditerranée aujourd'hui avec Poutine. Vous voyez, déjà à l'époque, c'était un peu le même topo. Le 12 de 1902, je reste qui a bien compris ce qui se passait et qui redoutait donc un éclatement de l'Europe. Il dit, il vaut mieux organiser dans la paix l'alliance générale des peuples européens. Il dit, l'Europe déjà organisée par la Triple Alliance d'un côté et par l'Alliance franco-russe de l'autre peut se constituer peu à peu en un système définitif d'où toute chance de guerre sera exclue. Oui, quand il a vu ces alliances, d'un côté la Triple Alliance, de l'autre côté l'entente entre la France et l'Angleterre, etc., il s'est dit, bon, c'est bon signe, ça veut dire que les gens se parlent, s'ils se parlent, ils ne vont pas se faire la guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il vaut mieux organiser dans la paix l'alliance générale des peuples européens. Mais là, il s'est fichu un peu dans l'œil, si j'ose dire. C'est vrai que c'était possible, ces choses-là. Et il dit que ce sera le désarmement. Nous n'atteindrons à ce but qu'à la condition d'amortir tous les jours les préjugés chauvins et les passions nationalistes. Et c'est là que ça a foiré, évidemment. 1904, la France et l'Angleterre vont se rapprocher. Donc, c'est ce qu'on appelle la triple entente, après la triple alliance. Mais en 1905, c'est des rivalités, des guerres entre le Japon et la Russie, qui veulent s'emparer tous les deux de la Corée. Ouais, la Corée, on y est encore. Le Japon, qui est allié de l'Angleterre, va battre la Russie dans tous ces conflits. Un incident, alors, le premier incident qui va avoir lieu entre la France et l'Allemagne, c'est là, c'est par rapport au Maroc. Il faut savoir que le Maroc, l'Algérie était française à l'époque. Le Maroc était convoité par la France. Le Maroc était ouvert sur la mer et tous les pays d'Europe pouvaient faire du commerce avec le Maroc jusqu'à ce moment-là. Bon, donc pas de problème. Mais la France voulait empêcher les autres pays faire du commerce avec le Maroc, voulait se le garder pour elle-même. Et donc, un conflit avec l'Allemagne qui commerçait beaucoup avec le Maroc à ce moment-là. Donc, il y a eu un conflit qui a failli dégénérer en guerre. Et à ce moment-là, les peuples d'Europe ont compris le danger et ils ont provoqué une conférence qui s'est tenue à Algésiras et qu'ils ont arbitrée. Et en conclusion de cette alliance, de cette conférence en 1906, eh bien, la banque marocaine est devenue la banque internationale, donc pas uniquement française. Le commerce marocain est ouvert à tous les États, donc c'est une bonne chose. Et la France et l'Espagne se sont engagées à faire la police donc au Maroc, mais sous contrôle international. Donc c'était un accord qui, sous la direction des États européens, donc pouvait marcher. Mais la France, malheureusement, on n'a pas respecté cet accord. Jaurès, quand il voit ça, il est content. Il dit, désormais, la question marocaine est une question internationale, donc tout va bien. On a évité un conflit qui pouvait se généraliser. Bon, très pantante, je l'ai dit. Mais le problème, c'est que la France s'est finalement, petit à petit, emparée du Maroc. Et personne n'a rien dit à ce moment-là. La France n'a pas respecté ce qui s'est passé à Algésiras. Personne n'a rien dit. Alors, tu vois, passe des gens comme l'Italie. L'Italie a dit, ah, la France s'empare du Maroc, petit à petit. Bon, ben nous, on va s'emparer de la Tripolitaine. Et ils en vont s'emparer de la Tripolitaine. Chez Kadhafi, bon, enfin, dirais-je, la Libye, voilà, la Libye. Et là, personne ne dirait non plus. Alors, l'Autriche fait la même chose. L'Autriche va annexer la Bosnie-Herzégovine. Évidemment, les Russes vont voir ça d'un très mauvais œil. évidemment, déjà qu'ils étaient en froid avec l'Autriche, et une menace de guerre va se profiler à l'horizon entre la Russie et l'Autriche. Nouvelle crise avec l'Allemagne par rapport évidemment au Maroc. L'Allemagne envoie des canonnières devant Agadir, la France fait la même chose de l'autre côté. Là aussi, ça a failli éclater encore. Et là, Jaurès dit dans un article que j'ai par là, j'en ai un extrait ici. Il dit, une nouvelle crise éclate donc en juillet 1911, quand l'Allemagne envoie une canonnière à Agadir pour protéger ses ressortissants menacés, comme l'ont fait aussi l'Espagne et la France à Fès. Bon, il dit, pour nous Français, qui les premiers avons violé ou laissé violer par nos coloniaux l'acte d'Algésiras, notre responsabilité est énorme et une guerre qui naîtrait de là serait un crime procédant d'un crime. Et il ajoutera le 7 juillet, ce qui aggrave le péril, c'est l'absence chronique et universelle de bonne foi dans les relations internationales, évidemment. Alors, finalement, ça c'était la France donne une partie du Congo à l'Allemagne, et la France, elle assure, comme elle disait, le protectorat sur tout le Maroc. Protectorat, ça veut dire annexion, on peut se faire d'illusion, on joue un peu sous les mots, le protectorat, c'était... Voilà. Et 1912, les Balkans vont s'agiter de nouveau. Le 12 octobre, Jaurès pressent un embrasement de toute l'Europe. Et voilà ce qu'il dit, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est intéressant cet article sur les Balkans. C'est là qu'il entrevoit la guerre de 14, quoi. Et c'est ça, en 1912, il dit, les Balkans s'agitent de nouveau. Il dit, bien imprudent ceux qui, dans cette universelle crise politique et sociale des peuples, déchaîneraient la guerre. Toute la planète prendrait feu d'un double incendie, de l'incendie de la Révolution, révolution russe, les révolutions de l'Allemagne partout, comme de l'incendie de la guerre. Et le 6 octobre, il ajoute dans la dépêche, l'été dernier, toute l'Europe s'est demandé si elle n'était pas à la veille de la guerre à propos du Maroc. Cet été, elle se demande si les affaires des Balkans ne vont pas déchaîner un conflit européen. La guerre éclatera-t-elle entre les quatre puissances balkaniques de la Turquie? Si elle éclate, parviendra-t-on à la localiser? C'est qu'une fois le conflit des Balkans engagé, il suffira d'un incident minuscule, ça c'est Sarajevo, d'une initiative misérable pour y impliquer d'autres puissances, et tout d'abord la Russie et l'Autriche. Il y revient souvent, ça. C'est vrai que l'origine de la guerre de 14, c'est surtout, c'est en particulier la Russie et l'Autriche, pour des problèmes des Balkans. Alors, il n'est pas le seul à dire ça. Vous avez Poincaré, qui est le président de la République à l'époque, et Churchill lui-même, qui est ministre anglais, ils disent un peu la même chose. Poincaré dit ceci en 1912, une guerre qui naîtrait dans ces conditions serait un défi au bon sens, à l'humanité et à la civilisation. Et Winston Churchill, lui, confirme, et il dit, écoutez bien ça, le monde dirait de la génération qui aurait laissé éclater une semblable guerre, c'était une génération de fous. Ça, 1912. Hein. Alors Jaurès, lui, est au courant de tout ça, tout ce qui se dit. Alors lui, par contre, il n'a pas tant de chemin. Voilà ce qu'il dit à propos de ces discours-là. Il dit, ce n'est pas pour sauver la patrie qu'on va faire une guerre, ce n'est pas pour conquérir la liberté, ce n'est pas pour affirmer une foi. C'est pour l'imbroglio le plus obscur, pour les querelles les plus futiles, pour les passions les plus misérables. Et il poursuit, à travers de cette crise de délire européen, la révolution jaillira de toutes parts d'un bout à l'autre de l'Europe. Là, il prévoit ce qui va se passer après 14. Elle jaillira des colossales armées menées à l'abattoir par la folie, avec un grand F, un F majuscule, la folie. Elle jaillira du cœur innombrable des souffrants, des femmes torturées dans leur âme et dans leur chair, outragées dans leur raison et dans leur cœur par l'absurdité d'un sacrifice sans objet. Il dit, vraiment, Sir Winston Churchill a raison de dire que cette crise ne laissera debout en Europe aucune institution. C'est bien ce qui s'est passé après. Je demande qu'on fasse connaître partout aux femmes de France, dans les plus humbles villages comme dans les grandes cités industrielles, ce que pensent les gouvernants eux-mêmes. M. Poincaré, M. Churchill et les autres de la guerre, ou demain peut-être, on poussera des millions d'hommes invités par une Europe démente et avouant sa démence au bal du meurtre et de la folie. Ça pourrait être un titre, au bal du meurtre et de la folie. Et il prophétise le 4 décembre, mais quelle chose extraordinaire! Tous les gouvernants de l'Europe répètent, cette guerre serait un crime, une folie, et les mêmes gouvernements diront peut-être dans quelques semaines à des millions d'hommes, c'est votre devoir d'entrer dans ce crime, dans cette folie. Et si ces hommes protestent, s'ils essaient d'un bout à l'autre de l'Europe de briser cette chaîne horrible, on les appellera des scélérats et des traîtres, et on aiguisera contre eux tous les châtiments. C'est soldat futur. Pour l'exemple, ça c'est ce dans Haute-Garonne, un livre qui est sorti il y a 2 mois. Voilà. Pour l'exemple. On arrive au 28 juin 14, c'est Sarajevo, c'est l'assassinat. Bon, ça c'est, un épisode parmi d'autres. Je rappelle quand même que chaque année, il y avait des assassinats importants. Des rois, des chefs d'État, l'impératrice Sissi d'Autriche, assassinée quelques temps avant aussi. On n'a pas fait une guerre pour ça. Donc ça, c'est un argument qu'on nous met dans les manuels scolaires, mais en fait, ce n'est pas tout ça qui a amené la guerre de 14. Et lui, il va donc dénoncer les responsables de la guerre généralisée qui se prépare. Il dit, l'Europe a oublié les 10 ans de compétition, d'intrigues, d'abus de la force, de mauvaise foi internationale qui ont grossi l'abcès, toutes ces guerres qu'on a vues tout à l'heure. Elle a oublié le Maroc, la Tripolitaine, les horreurs balkaniques, les imprudences de la Serbie. Elle a oublié même que l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, qui est à l'origine du conflit actuel, a été préparée par l'accord de l'Autriche-Hongrie et de la Sainte-Russie slave. La politique coloniale de la France, la politique sournoise de la Russie et la volonté brutale de l'Autriche ont contribué à créer l'état de choses horrible où nous sommes. L'Europe se débat dans un cauchemar. Donc, nous sommes en juillet 14. Alors, devant le danger, il va donc généraliser, multiplier ses actions pour essayer d'éviter la guerre et donc une paix. Du 28 juillet au 3 août, donc, l'Europe marche vers cette guerre. Regardez bien les dates. 25 juillet, la Serbie mobilise. L'Autriche décrète une mobilisation pour le 28. Le 26, Jaurès dit « Les Russes veulent-ils la guerre ?» Dans un article de la Dépêche que je ne vous lirai pas, il est trop long. Le 29 juillet, la Russie décrète une mobilisation pour le 30, donc pour faire la guerre. Quand on mobilise à cette époque-là, en fait, c'était bien pour la guerre. Ce n'était pas uniquement pour faire joujou. Le 30 juillet, en France, Joffre, général en chef, réclame une mobilisation générale pour la guerre lui aussi. Et Jaurès, à ce moment-là, convoque un congrès de tous les prolétaires d'Europe à Paris pour le 9 août. Cette date est très, très importante, pour le 9 août, pour imposer la paix. Et donc une grève générale dans toute l'Europe pour éviter une production de bombes, de machines de guerre, etc. Pour le 9 août. Mais depuis un an, donc, la presse nationaliste française donc, accuse Jaurès d'être un traître. Et vous allez voir quelques extraits, ça il faut quand même l'entendre. Tout ce qui a été dit contre Jaurès pendant cette année-là. Le 3 février 1913, c'est Charles Péguy qui écrit: je demande pardon au lecteur de prononcer ici le nom de Jaurès. C'est un nom qui est devenu si bassement ordurier. Ce gros bourgeois parvenu, ventru, au bras de Poussa. Ce malhonnête homme, un pleutre, un fourbe parmi les fourbes, un grossier maquignon du midi. Une de nos hontes nationales, un agent du parti allemand, un ennemi de l'intérieur. Charles Péguy. Oui, Vatican. Le 21 avril 1913, c'est Léon Daudet qui traite Jaurès de symbole ignoble, tonitruant et véreux de parlementaire expirant. Du point de vue national, ce militant du Gaillacois mériterait un châtiment exemplaire dans tout état organisé. Dans le même journal, le 15 mai, Charles Maurras ajoute « Il serait bon de ne pas perdre ce traître de vue » et Maurice de Valef écrit le 17 juillet dans Paris Midi « À la veille de la guerre, le général qui commanderait à 4 hommes et un colère au mur le citoyen Jaurès et de lui administrer à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensez-vous que ce général ne ferait pas son plus élémentaire devoir? Si, et je l'y aiderai. » Vous vous rendez compte, c'est dans la presse nationale, c'est ce qu'on entend sur Jaurès, à quelques jours avant son assassinat. Et le 23 juillet 14, on peut lire dans l'Action française, « Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblement. » C'était ça le 23 juillet. Et le 31 juillet, ah oui, on va aussi ce qui va se passer du 31 juillet et le 1er août. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire, heure par heure. À 19h, l'ambassadeur d'Allemagne, von Schön, va rencontrer le Premier ministre, enfin le président du Conseil à l'époque, Viviani, pour lui demander si la France restera neutre en cas de guerre en réfléchie. Repassez demain. Voilà. Et la réponse de Normand, je réfléchis. Bien. Ça, c'était à 19h. 21h40, c'est tout réfléchi, on assassine Jaurès. Le lendemain, 1er août, la dépêche, vous voyez, nous mobilisons, Jaurès assassiné, voilà, l'empereur de l'Allemagne décrète l'état de siège, etc. Et là, on fonce vers la guerre. 1er août, alors là aussi, heure par heure, à 11h, von Schön revient voir Viviani pour lui demander s'il a réfléchi. Que répond Viviani? La France s'inspirera de ses intérêts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais bon, avec ça. Mais, deux ou trois heures après, Viviani décrète la mobilisation générale. À 16h, la première affiche est posée à Paris, au coin de la Concorde de la rue Royale. Donc le monde entier a su à ce moment-là que la France entrait en guerre. C'était tout réfléchi. Elle ne restait pas neutre. Qu'est-ce qui se serait passé si la France était restée neutre entre la Russie et l'Allemagne? Parce que la guerre s'est engagée comme ça, entre la Russie et l'Allemagne, et l'Autriche, bien sûr, qui a suivi. Mais, vous voyez, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que c'était l'intérêt de l'Allemagne d'entrer en guerre avec la France? Enfin, j'en sais rien, je ne peux pas refaire l'histoire. Hein. Mais enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. À 16h, donc, voilà, l'affiche est posée. À 17h, à ce moment-là, l'Allemagne mobilise, elle a eu la réponse. À 19h, la guerre est déclarée entre la Russie et l'Allemagne. Dans la même journée, tout ça. Vous voyez, ça va très vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affiche de mobilisation de la France était imprimée 10 ans avant, déjà en 1904. Et on avait laissé en blanc la date que vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, écrite à la main. Hein, dimanche 2 août 1914. C'était imprimé 10 ans avant, 1904. Vous voyez, comme quoi tout se prépare à l'avance. Ce n'est pas Sarajevo hein, qui a provoqué la guerre. Longtemps que c'était, sans compter les manœuvres de Toulouse, etc. Bon. Anatole France lui dit, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Voilà. Donc, ce que dit aussi Anatole France, la guerre, c'est le massacre de braves gens qui ne se connaissent pas, au profit d'autres gens qui se connaissent bien, mais qui, eux, ne se massacrent pas. Voilà, en gros, ça, c'est une opinion assez intéressante. Alors, j'ai aussi, vous connaissez le livre certainement de Louis Bartas, le caporal Bartas, pour ceux qui est devenu un best-seller dans le monde entier d'ailleurs, des fameux caporal qui raconte un peu cette guerre dans ses cahiers. Et voilà ce qu'il dit. Pour maintenir le moral au cours de cette guerre, vous la justifiez, on a menti, et c'est un simple caporal qui a à peine le certificat d'études. Hein. Pour la justifier, on a menti cyniquement en disant qu'on luttait uniquement pour le triomphe du droit et de la justice, qu'on n'était guidé par aucune ambition, aucune convoitise coloniale ou intérêts financiers et commerciaux. On a menti en nous disant qu'il fallait aller jusqu'au bout pour que ce soit la dernière des guerres. On a menti en disant que nous, les poilus, nous voulions la continuation de la guerre pour venger les morts, etc. On a menti, mais je renonce à écrire tous ces mensonges, etc. etc. Donc, voilà, rien n'a changé aujourd'hui, bien entendu. Voilà. Alors, je voulais vous lire, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Non, je vais vous le lire, bon, quelques extraits. J'ai eu la chance de... Enfin, il y en a qui ici qui connaissent, qui ont connu Alice Rascanière de Grenade, qui était dans tous les bals occitans et tout. Elle est morte à 102 ans, il n'y a pas très longtemps. Et elle avait chez elle toutes les lettres de son père, qui était à la guerre de 14. Il écrivait tous les jours à sa mère, à sa femme, donc, à Grenade. Elle lui répondait au dos de la lettre. Donc, on a d'un côté ce qui se passait sur le front, dans l'étranger, et de l'autre côté, la vie à Grenade. Et avant sa mort, elle avait décidé d'écrire un petit livre sur ce qui se passait à Grenade pendant la guerre de 14-18. Elle l'a fait, elle l'a terminé. Donc, elle me dit, ce qui me tient encore en vie, c'est quand j'aurai terminé ce livre pour ma mère, eh bien, je partirai. Elle est partie un mois après. Avoir terminé. Elle m'avait dit, surtout, essayez de retrouver l'ensemble des lettres où il y a tout ce qu'a dit mon père et vous ferez un livre sur mon père. J'ai dit oui, malheureusement, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, mais je veux le faire, j'espère, d'ici un an. J'ai toutes ces lettres, j'ai récupéré grâce à son fils, qui les a découvertes derrière une vieille cuisinière, c'était caché. C'est extraordinaire. Et là, on voit que ces gens-là, donc, dès le début de la guerre, compris qu'on s'était moqué d'eux et qu'on les envoyait au massacre. Voilà ce qu'il écrit, un extrait, il s'appelait Bonnevie. Bonnevie, c'est un nom prédestiné. Le 6 août 1915, déjà, un an après le début de la guerre, déjà. Je t'assure qu'ici, tout le monde en est fatigué. On comprend qu'il ne faudrait qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Nous sommes pas en 17. Hein. C'est-à-dire que l'armée se révolte. Quand tu verras sur les journaux que les troupes n'attendent que le moment d'aller à l'assaut, tu Tu pourras dire que ce n'est pas vrai. Je crois plutôt que lorsqu'on les commandera, ils ne voudront pas sortir de la tranchée. Nous sommes un an après le début de la guerre. Déjà, il avait compris certaines choses. 25 août, même année, qu'en 15. Nous ne devons pas parler de l'état moral des troupes, ni de ce que peuvent penser et dire les troupes que nous approchons. Bon, j'en saute. Il dit. Pourquoi, Alex, voyons. Je veux bien ici faire mon devoir, mais je voudrais aussi qu'il ne me soit pas défendu de penser et de dire à ma famille ce que je ressens personnellement. J'espère que cette lettre sera lue par l'officier censeur. Bon, il n'a pas dû la lire parce que la censure est arrivée jusqu'à Grenade. Mais il raconte ce qui se passe à l'étranger et ça marche mal. Ça. Le 28 septembre. Et il parle de l'offensive, d'une offensive. L'offensive est commencée, c'est formidable. Le canon vous assourdit, il y en a pas mal qui tombent. Hier soir, j'ai eu 2 blessés à côté de moi. Il en manque déjà 7 à ma section, et moi, rien. Nous souffrons un peu de la pluie, de la nuit surtout, et il fait froid sans veste, sans tricot. On nous a tout enlevé pour nous obliger à marcher en plein froid sous la pluie et tout ça. Pas de plus rien. Le 28 septembre, il dit... Nous avions les combats les plus acharnés et meurtriers. Dans 2 jours, notre compagnie a diminué de moitié. J'en ai tellement vu tomber à mes côtés, devant, derrière, que personne ici n'espère rien. On fait son devoir sans regarder en arrière. C'est terrible. Et des officiers pleuraient à certains moments de voir ces hommes courir vers calme à une mort certaine. Tous les jours, il y a des charges à la baïonnette et à coups de grenade, et le canon tourne continuellement toute la journée. Nos nerfs sont excités au dernier degré. On ne peut se défendre d'un tremblement dans les membres pendant l'attente, mais que la charge sonne et tout le monde devient calme comme à une parade. Le 7 octobre, bon, je passe sinon, ça va être trop long, une phrase que je voulais vous lire. Ah oui, là, il envisage sa disparition. Il dit à sa femme, un jour, là, le 9 octobre, il dit à sa femme, qui était malade, était voir le médecin. Donc, il lui dit, t'as bien fait d'aller voir ce médecin et surtout de suivre son ordonnance. Et il dit, pense que tu peux devenir le seul soutien d'Alice qui aura besoin de toi encore bien longtemps. Il pense déjà à sa mort. Chère Alice, et vous tous, comme je voudrais vous revoir. Le 18 décembre, là je terminerai par ça, et il dit, nous sommes en première ligne depuis 2 secteurs, dans celui-là même que les Allemands ont attaqué, tout le terrain est bouleversé par les obus, rien ne tient, etc. etc. Nous sommes un peu avertis. Au lieu de nous civiliser, plus la guerre dure, plus elle devient cruelle. Si la guerre dure longtemps encore, ce ne sera pas des hommes, mais des bêtes qui se battront. C'est pitoyable. Voilà où nous a conduit notre soi-disant civilisation. Ce n'était pas la peine d'essayer de civiliser les autres peuples. Maintenant, nous faisons pire qu'eux. Ah, bonne vie. Et il y en a... J'ai des centaines de pages comme ça. C'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, Les Fusillés pour l'exemple, c'est ce livre que je vous ai montré, qui vient de sortir il y a 2 mois. Il sera présenté à l'Hostal Occitanie, je crois, la semaine prochaine, pour ceux qui viennent à Toulouse, par Patrick Lasseub et Didier Roux, qui est quelqu'un de mon village, Didier Roux, parce que son grand-oncle, en 16, peu importe, pour avoir pris 3 ou 4 bouteilles de vin dans une maison qui était abandonnée sur le front, donc ils étaient à l'arrière, ils avaient combattu pendant des mois et des mois, ils étaient 4, ils ont trouvé des bouteilles, ils ont pris des bouteilles de vin, bon, voilà. 2 gendarmes passent en vélo, ils les voient, ils les attrapent, ils les amènent dans leur régiment, et là, jugement immédiat, le lendemain, Roux est fusillé, pour l'exemple, bien sûr. Les 3 autres n'ont pas été fusillés, mais ils ont été condamnés aux travaux forcés, etc., etc. Voilà, pour 3 ou 4 bouteilles de vin, c'est un exemple de ces fusillés de la guerre de 14. Voilà, et alors on en arrive ici, au fameux monument qu'on va élever après la guerre de 14, et où Louis Bartas dit, bon, dans les villages, on parle d'élever des monuments de gloire et d'apothéose aux victimes de la grande tuerie. Je donnerai mon obole que si ces monuments symbolisaient une véhémente protestation contre la guerre, contre l'esprit de la guerre. Alors voici quelques-uns de ces monuments, je les passe rapidement. Le plus connu, c'est Gensiouk dans la Creuse, avec l'expression maudite soit la guerre, ça a été répété un peu partout. C'est un monument qui est bon, connu dans toute la France et où il y a chaque année des cérémonies pour la paix ou contre la guerre. Quoi. Arcachon aussi, pareil, à Lesoux dans le Puy de l'Homme, victime de la guerre, à ceux qui ont combattu pour l'abolir, il y a écrit. À Laspen, en Haute-Garonne aussi, maudite soit la guerre, à Gazarie-Laspen. À Nagnan, dans l'Hérault, alors là, c'est une inscription en occitan, à nos morts, la guerre, quand Boulgut, et sa guerre à la guerre, sous morse, mais notre terre, et perd toute la terre, c'est-à-dire la guerre qu'ils ont voulu, c'est la guerre à la guerre. Ils sont morts pour notre terre, et pour toute la terre, et pour toute l'humanité. Et non pas morts pour la France, comme on le dit, malheureusement. Voilà. À Joyeuse aussi, dans l'Ariège, en Ardèche, un monument aussi contre la guerre. À Banyuls sur-mer aussi, dans le Rhône, il y a un peu partout, dans le Var. Un poilu qui lance une pierre vers l'infini avec l'inscription autour du monument, il y en a de chaque côté. 1922, la commune de Mazorgue a ses enfants victimes de la guerre. En 1935, ils ajoutent à bas toutes les guerres, vive la République universelle des travailleurs. En 1936, l'union des travailleurs fera la paix universelle. C'est une phrase d'Anatole France. Et ils ont inscrit aussi une de Jaurès. L'humanité est maudite si, pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Alors après, bon, j'y passe parce que c'est le. L'heure passe rapidement. On arrive aux conséquences de ce conflit. Alors, après le retour de l'Alsace et la Moselle à la France, il va y avoir, ce qu'on ne dit pas, que les gens ne savent pas, une épuration ethnique extraordinaire concernant l'Alsace et la Moselle. Clémenceau, déjà plusieurs mois avant l'armistice, avait publié, pas un décret, mais une instruction pour l'Alsace. Disant qu'il fallait séparer les gens en fonction de leurs origines ethniques. Donc on va savoir ceux qui sont de pure race alsacienne, ceux qui sont de pure race allemande, ceux qui sont les deux, ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. Et chacun recevra une carte d'identité différente, classée A, B, C, D. Vous les voyez là, sur l'écran, voyez. Ce qui fait que dans la même famille, les gens n'avaient pas toujours la même carte d'identité, l'homme et la femme, et les enfants pareil, et ils n'avaient pas les mêmes droits. Certains ne pouvaient pas aller sortir du village à plus de 20 km, par exemple. C'était, entre autres choses, ce qui s'est passé donc en 1918 pour les Alsaciens. Ça a été quand même assez terrible, voyez. Si vous voulez, non seulement ça, mais on a fait venir en Alsace des instituteurs du centre de la France pour les obliger à renoncer à leur langue d'origine, c'est-à-dire l'alsacien, ou l'allemand, bien sûr. Ils ont été assez terribles. Bon, mais je passe. L'heure passe aussi. Donc, comme conséquence, on va voir quatre empires qui sont rayés de la carte. C'était l'Allemagne, ce qu'avait annoncé Jaurès, hein, l'écroulement des empires, etc. L'Autriche-Hongrie, la Russie et la Turquie ottomane. Et en contrepartie, naissance de nouveaux États qui sont des sources de conflits qu'on voit actuellement d'ailleurs. Hein. L'Europe sera très affaiblie, la monnaie sera dévalorisée, l'inflation, l'endettement, les terres agricoles qui seront inexploitables dans les terres qui ont été ravagées par la guerre, surtout dans le nord et dans l'est. Ici, on n'a pas été touché par ça, mais bon, dans le nord et dans l'est. Bon, dénatalité qui est liée, bien sûr, à la surmortalité et qui est due au conflit. Hein. Plusieurs millions de gens qui sont morts, c'est autant d'enfants qui ne sont pas nés, c'est évident. Bon, et les États-Unis commencent à dominer le monde occidental. L'Europe, qui était la principale puissance économique et autre dans le monde, et faisait la loi dans le monde, et eh bien sera remplacée petit à petit par les États-Unis. Et pour la première fois, le français, qui était la langue internationale en diplomatie, va être supplanté par l'anglais. Ça, grâce à Clemenceau, qui a voulu que le traité de Versailles soit écrit dans les deux langues, français et anglais. Les Anglais, à ce moment-là, va bien sûr prendre le dessus grâce aux États-Unis et va devenir la langue internationale, même en diplomatie, on le voit bien encore aujourd'hui. Alors, en même temps, il y aura comme une prise de conscience par certaines catégories sociales dans nos sociétés, par les gens qui étaient touchés par la guerre. Et les femmes, par exemple, elles vont obtenir le droit de vote au Canada, en Angleterre et aussi en Allemagne, mais pas en France. Vous avez attendu, mesdames, je crois, 1945 pour pouvoir voter. Et mis des années 70 pour ouvrir un chéquier, etc. Bon, je ne veux pas développer ça, c'est l'objet d'une conférence aussi. Mais voilà, et ce qui va avoir des conséquences pour les Alsaciens. En Allemagne, les femmes, elles votaient. Les Alsaciennes vont perdre le droit de vote devenant françaises, qu'elles ne retrouveront qu'en 1945 comme les autres. Ça aussi, c'est un truc qui est très important à dire. Et les peuples colonisés qui ont combattu aussi à nos côtés, je pense aux tirailleurs. Un de mes grands-pères était dans les tirailleurs algériens, son frère aussi, d'ailleurs, les tirailleurs marocains. Et donc, tous ces peuples-là vont vouloir aussi se libérer des tutelles coloniales, et d'où le début de la décolonisation. L'exode rural, ce sera une conséquence très importante aussi, puisque ça va s'accélérer de plus en plus. Les gens vont venir dans les grandes villes où, pour trouver du travail et autres. D'où, en ce qui concerne la culture et la langue occitane pour nous ici, ailleurs c'est pareil, petit à petit, progressivement, la langue maternelle va disparaître. La langue maternelle historique, comme ici l'Occitan, va disparaître petit à petit par ce déplacement de population de la campagne vers la ville. Alors Versailles, maintenant, est-ce que c'est un traité de paix ou est-ce que c'est au contraire le péché originel des nouvelles guerres? Le 18 janvier donc 19, on voit 32 nations qui ont participé à ce conflit, 32 nations, c'est énorme, vont se réunir à Paris pour préparer un traité de paix. Mais contrairement à ce qui se passait dans l'histoire depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, jusqu'à fois qu'il y avait une négociation après une guerre, tous les gens qui avaient participé à ces guerres-là se réunissaient autour d'une table et ils rédigeaient un traité de paix. Et bien là, pour la première fois dans l'histoire, on va exclure autour de la table à Versailles, on va exclure l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. C'est énorme. Et on s'étonne après de ce qui va se passer plus tard. Vous voyez ? Et ça, c'est imposé par Clemenceau aussi, j'insiste là-dessus. En fait, quatre États vont dominer la France de Clemenceau, qui va diriger la conférence, qui lui veut carrément l'anéantissement de l'Allemagne depuis longtemps. Hein. Mon horizon, c'est la ligne bleue des Vosges, il disait à une époque. Hein. Ensuite, Lloyd George, l'Angleterre, qui, elle, par contre, ne veut pas amputer l'Allemagne de territoire, parce qu'il se disait, bon, à juste titre d'ailleurs, ce sera encore une source de nouveaux conflits, ça. Bon, ce qui s'est avéré vrai plus tard. L'Italie va revendiquer des territoires sur l'Adriatique, en particulier un port, il voudrait un port sur l'Adriatique, qui sera refusé. Bon, là aussi, c'est pour cela qu'ils ont quitté d'ailleurs la conférence à une époque, à un moment donné. Wilson, les États-Unis, c'était le plus conciliant. Lui, il pensait surtout au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est très intéressant pour aujourd'hui, ça, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il veut créer une société des nations, ce sera la fameuse SDN, mais qui va échouer pour la bonne raison que lorsqu'il a présenté le traité de Versailles au Congrès américain, le Congrès américain a refusé de ratifier le traité de Versailles. Il n'a jamais été ratifié, parce qu'ils ont vu tous les dangers qu'il y avait dedans. Ils ont été les seuls. Et la SDN, donc, a échoué en même temps. Bon, en fait, les États vont chercher surtout à satisfaire les intérêts particuliers des uns et des autres et vont négliger les aspirations des peuples. On va découper l'Europe en morceaux, on va créer des États plus ou moins centralisés, un peu à l'image de la France, pensant à l'Irak, l'Iran, la Turquie, la Syrie, quatre États qui faisaient partie de l'Empire ottoman qui seront donc créés, et des peuples qui étaient sur ces États-là, qui étaient dans l'Empire ottoman, ils seront découpés en morceaux. Mettra un morceau sur chaque État, voilà, sans tenir compte de leurs intérêts. Et on s'étonne de ce qui se passe encore aujourd'hui. Et je pense en particulier aux Kurdes. Pensez aux Kurdes. Ils étaient 20 millions à cette époque-là. Ils demandaient un État sur Kurdistan. Et bien donc, Clemenceau exigeait qu'ils soient découpés. Ils ont été répartis entre ces quatre États. Et aujourd'hui, c'est le retournement de situation. Ce sont les Kurdes qui ont été les seuls à combattre Daesh, là-bas. En Syrie en particulier, et en Irak. C'est eux qui ont vaincu Daesh. Parce que les alliés américains et autres bombardaient d'en haut, mais ça c'est facile, mais eux ils étaient en bas. Eh bien, encore aujourd'hui, on leur tire dans les pattes, pas derrière, en particulier les Turcs. Donc, vous voyez. Et voilà quoi la conclusion d'Anatole France, 1920, qui dit. La plus horrible des guerres a été suivie d'un traité qui ne fut pas un traité de paix, mais la prolongation de la guerre. L'Europe en périra si enfin la raison n'entre pas dans ses conseils. Et en effet, le diktat de Clemenceau va aboutir à ceci, c'est que l'Allemagne est tenue pour seule responsable de la guerre de 14. Qui est stupide. Vous avez vu comment ça s'est déroulé depuis, dans ce que disait Jaurès, hein, à juste titre, comment on est arrivé à cette guerre. C'est conflit entre tous les États, et pas seulement l'Allemagne. Donc, d'où l'Allemagne perd des territoires. Pensez au couloir de Danzig qui coupe l'Allemagne en deux parties, ce qui est stupide. Hein. L'économie allemande ne veut pas se relever, c'est ce que voulait Jaurès, il ne voulait pas qu'elle se relève. Elle va payer 132 milliards de marks Et ce qu'on ne sait pas, vous ne savez peut-être pas, c'est que le dernier paiement n'a eu lieu qu'en 2010 par Merkel. Depuis 1920, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Et malgré ça, l'Allemagne s'est relevée, mais après, à la guerre de 1945, là-bas. Vous voyez? La République de Weimar sera discréditée, c'est là aussi, on ne comprend pas. C'était l'occasion, à ce moment-là, de faire une Europe pour éviter la guerre, ce qu'on a fait après 1945. Hein. L'empereur d'Allemagne avait abdiqué, une république socialiste d'ailleurs s'était mise en place à Weimar. Il fallait l'aider à créer, à remonter la pente, quoi, pour éviter de nouveaux soucis. Alors que là, le gouvernement était discrédité à Weimar, ce qui fait que les deux extrêmes, l'extrême gauche avec les spartakistes, ont essayé de semer une révolution, et l'extrême droite, avec quelques temps après, avec les nazis, vous voyez ce qui s'est passé. Bon, voilà. Ça aboutit à ça, parce que quand un peuple crève de faim, il va se jeter dans les bras de celui qui crie le plus fort, et celui qui crie le plus fort à l'époque, il s'appelait Adolphe. Voilà. Alors, aujourd'hui encore, je l'ai dit, bon, l'actualité nous ramène à l'histoire. Par exemple, les Kurdes, je l'ai dit, saucissonnés et répartis sur quatre États artificiels, donc voilà. Des conséquences. Mais après 1945, bon, il y a eu la guerre, tout ça, bon. Après 1945, sur l'invitation du président basque, il faut savoir basque, comme il y avait une république catalane dans la République espagnole avant Franco. Après l'échec des républiques donc en Espagne, le président de la République basque s'est exilé aux États-Unis, il est revenu en 1945 à Paris, rue Saint-Ger, et là il a réuni des leaders européens comme De Gasperi, l'Italien, Adenauer et Robert Schuman, le Français, qui vont lancer l'idée européenne. C'est venu de là, de ces Basques qui ont compris qu'il fallait faire une Union européenne pour éviter une nouvelle guerre. Et donc, ils ont lancé cette idée-là. Jaurès disait dans un article que je ne vous ai pas lu, mais j'avais par là, lorsque ça allait très mal, il disait, mais où est passée l'Europe? Il disait. Hein? On pensait, avec l'histoire du Maroc, que l'Europe avait compris qu'il fallait se réunir. Quand il y avait un conflit entre tout le monde et qu'on discute autour d'une table pour éviter que ça aille plus loin, il avait dit, mais où est l'Europe? Donc c'est ce qu'on essayait de faire ces trois-là, mais l'Europe aujourd'hui, je ne sais pas où elle va, mais bon, on est un peu mal barré. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'allais dire rapidement non, parce que j'ai mis plus d'une heure, mais bon, voilà. Si... Alors. Vous voyez, ça, c'est Alice Rascanière, pour ceux qui l'ont connue. J'ai tenu à mettre cette image à la fin, parce que, bon, c'était une femme extraordinaire, elle est morte à 102 ans. Et j'ai, je vous dis, toute la correspondance de ses parents durant cette guerre. Je vais essayer d'en sortir quelque chose, un livre prochainement. Donc, voilà. Elle était là quelques semaines avant sa mort, elle était en pleine forme, hein, 102 ans. Elle venait de terminer justement le livre pour sa mère. Vous voyez, quand elle m'a dit ça. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire. Ouais, merci. Alors, des questions si vous en avez. J'essaie de parler un peu rapidement parce que bon, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Il en faut toujours une. Tout à fait, oui.
Moi, ce qui m'a un peu surpris, on en parlait tout à l'heure, c'est en fait, on dit toujours que la guerre de 14 est une guerre à des motifs économiques. Ce sont les lobbies dans certains des pays, des grandes familles, de la sidérurgie, etc., qui ont poussé à cette guerre parce que c'était un conflit derrière commercial.
Oui. Oui.
Qu'en est-il réellement? Parce que ça, tu ne cites aucune. Je n'ai pas vu Bayern, je n'ai pas vu un certain nombre de familles, on ne sait pas du côté d'Allemand. Et pourtant, lorsqu'on lit ça dans la presse historique, on trouve toujours des références à des groupes financiers.
Oui, mais ça, je ne suis pas spécialiste de l'économie, mais bon, c'est évident. Bon, J'essaie de le dire un peu au début. Bon, toutes les guerres, c'est souvent des conflits entre des intérêts qui sont contradictoires. Hein. Donc toutes ces grandes firmes, que ce soit allemandes, françaises, anglaises et autres, ont poussé à ça. Ont poussé, ça c'est sûr. Oui. Maintenant, bon, faudrait le développer, mais bon, c'est question de temps, mais bon. C'est pareil aujourd'hui d'ailleurs, hein, ne faut pas se faire d'illusions. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui en Afrique? Pourquoi tous les jours nous sommes en guerre, actuellement nous sommes en guerre, en Afrique. D'après vous, pourquoi? Nous défendons, on entend ça des politiques qui nous disent, de tous bords confondus, nous défendons nos intérêts en Afrique. Ah, mais c'est quoi ces intérêts? Bon, après, il y a eu le Gabon, le pétrole, etc. Mon frère a été le garde du corps de Bongo au Gabon, il m'a raconté des choses quand il était là-bas. Il s'est fait assassiner après, mais bon, problème d'ici. Et aujourd'hui, nous sommes encore en Afrique, il y a le Gabon, mais il y a aussi d'autres, le Niger, etc. Niger, par exemple, nous défendons quoi? Les centrales nucléaires, il ne faut pas l'oublier, c'est l'uranium, les mines d'uranium. Hein. Imaginez que les mines d'uranium tombent entre les mains de Daesh ou de je ne sais plus qui, hein, il faut les protéger. Donc tout ça, tout est lié. Tout est lié. Et comment? Ah oui, mais ça. Tout à fait, voilà. Tout à fait, oui. Oui, on a raté la contribution politique de l'Europe. C'était juste avant 14, et plus avant, c'est en 1911 ou 12, je crois. D'ailleurs, Jaurès avait fait une intervention là-dessus au Parlement contre. Oui, mais c'est ça. Oui. D'ailleurs, je ne voulais pas lui, mais Jaurès avait fait un article dans la Dépêche contre ça, justement. Et il avait fait une intervention remarquée au Parlement contre ce service militaire de 3 ans. Oui. Bartas. Tout à fait, oui, c'est pareil. Oui. Mais non. Oui. Tout à fait. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr, c'était les mêmes, bien sûr. Tout à fait, oui. Et à Noël de cette même année, d'ailleurs, ils ont sorti, les Allemands ont commencé à chanter le Stille-Nacht, là, et ils ont entendu ça, ils sont sortis, et ils ont fraternisé à ce moment-là, le soir de Noël, là. Oui. Oui. Et au dernier moment, quand il a vu comment Hitler se comportait, il a compris qu'il était en danger tout seul. Et c'est là qu'il a signé le fameux accord avec. Et ça a fait plus de tort aux militants communistes.
Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Le dernier.
Le dernier paiement était en 2010.
Oui.
Mais j'ai cru comprendre qu'après la création de l'Union européenne, la dette de la dernière avait été annulée.
En partie.
En partie.
En partie, oui. En partie, mais pas totalement, quoi. Il y avait un solde, voilà, oui. 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 Disons, en 2010, disons qu'il en restait encore en 2010. Et ce qui restait a été annulé. Voilà, a été effacé, quoi.
Oui.
C'est un peu trop, quoi.
C'est ça, oui, oui. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou si c'est, enfin, c'est le préfet, mais de toute façon, le préfet, le préfet, c'est le gouvernement. Hein, pour...
Bien sûr,
oui, 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 oui. Oui, il y en a eu plusieurs comme ça, oui. Qu'on a effacé, mais qui après ils sont revenus. Suivant les conseils municipaux, les choses ont évolué. C'est ça, oui.
Un combattant d'un côté Akan, l'autre combattant côté
français. Oui, oui. Oui, oui. Pour des monuments, celui de Toulouse, celui qui est au centre de Toulouse, là, le grand monument, c'est pas un monument aux morts. C'est un monument aux combattants de la guerre en 14. Donc tous, morts ou vivants, enfin vivants de l'époque. Comment ? Voilà, c'est ça. Mais c'est le monument aux combattants, voilà. Ah ben, oui, il était contre.
Il était contre parce qu'il voyait l'hypocrisie de tous ces,
oui, oui,
tous ces gens qui venaient au monument mort, là, pour la plupart.
Oui, oui.
C'est comme des lettres, en parlant de lettres, de gars qui, quand ils avaient une permission, c'était un miracle. Quand ils avaient une permission, je me souviens d'une lettre où le gars il était obligé de passer par Paris et il n'avait pas la correspondance de suite, je crois qu'il habitait la montagne. Il se balade dans Paris l'après-midi et il voit les cabarets qui sont pleins, il voit la fête.
C'est ça. Oui, oui, c'est ça, oui, ça je l'avais entendu. Oui.
Une dernière question.
Vous avez parlé du congrès qui était prévu le 9 août, que Jean Jaurès devait participer, qui finalement n'a pas eu lieu.
Oui.
Mais il n'était pas le seul leader contre la guerre en Europe. Quels étaient les autres leaders dans les autres pays?
Mais il avait rencontré. Il avait rencontré des gens un peu partout, je n'ai pas les noms en tête là maintenant. Rosa Luxembourg, je crois qu'il y était, oui. Rosa Luxembourg était prévu et tout. Et là, bon, bien sûr, ça a capoté pour cause, évidemment. Mais il est certain que s'il avait réuni ce grand congrès et c'était pratiquement prêt, j'ai un article qu'il écrivait dans la Dépêche où il expliquait ça. Donc, ils avaient peu de temps pour le faire, mais enfin, tout le monde s'y mettait et donc on arriverait à le tenir avec des délégués de l'Europe entière. Et ce qui était prévu, c'était de décréter une grève générale en toute l'Europe. Et ça, c'était pour les marchands de canons et autres, il était évident que c'était pas possible. Ils ne pouvaient pas le laisser faire. Quoi. Oui. Socialiste, oui. Oui, oui. Oui. C'est ça, oui. Il devait la rencontrer en Allemagne, oui. Oui, les affiches étaient prêtes depuis longtemps. Oui, oui. Non, mais quand on voit ça, quand on voit ce qui m'a frappé, c'est quand on voit ce qui s'est passé à Toulouse, ces grandes manœuvres, avec tous les délégués de toute l'Europe, des gens qui allaient envoyer toute la jeunesse, enfin, toute l'Europe dans les tranchées après. Ils le savaient très bien. Hein, ils s'étaient entraînés pour ça. Et ils buvaient le champagne. Comment ? Ici et sur le Gers en particulier aussi. Sur le Gers et enfin, partout. Alors l'état-major siégé était à Toulouse. Le président de la République était il avait son wagon réservé à Castelnau-Strette-Fonds. Et le gouvernement était installé à Grenade. Alors moi j'ai su ça par hasard, j'étais pas au courant, comme vous tous certainement, de ces manœuvres-là, par le jour des 100 ans d'Alice Rascanière justement. Parce que bon, j'étais à ses 100 ans, bien sûr, elle a voulu que je danse avec elle devant la télévision à l'époque. C'est extraordinaire. Et là, le collègue, là, un historien local, qui a fait son histoire, il commence par ça en disant, bon, elle est née en 1913, etc. Oui, en janvier 1913, oui, je crois que c'est ça. Et donc, elle a assisté aux grandes manœuvres nationales, elle a rencontré les présidents de la République dans les rues de Grenade, etc., parce que sa grand-mère l'a promenée dans une poussette, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de manœuvre? Elle m'a raconté, elle m'a dit, oui, elle m'a dit, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant. Je lui ai dit, bon, non, pas trop, mais voilà. Bon, du coup, j'ai fait des recherches et tout ça, aux archives de la dépêche et tout, on a tout, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'était un événement extraordinaire, quoi. Et dont on ne parle jamais, nulle part. On ne le rappelle jamais, cet événement. C'est là qu'on voit qu'ils sont fichus du monde, vraiment. Vraiment. Tous les dirigeants du monde. Hein.
Bien. Si vous voulez bien continuer les discussions entre nous devant le repas partagé, je rappelle que...